France Culture, avoir raison avec Ariette Taylor-Mill par Géraldine Mosna-Savoy.
Ariette Taylor-Mill, son nom ne vous dit rien, c'est normal. Ariette Taylor-Mill connaît la malédiction d'être une femme d'eux, celle de John Stuart Mill, philosophe anglais pourtant libéral et féministe. Mais autant le dire carrément, elle connaît d'abord la malédiction d'être une femme, tout court, en Angleterre au 19e siècle. Bien avant son mari, c'est elle qui écrit ainsi sur l'affranchissement des femmes. Et sur le sujet, autant le dire aussi, elle a été bien plus frontale que lui. Mais en quoi? Quel féminisme a-t-elle déployé? Et en quoi nous éclaire-t-il encore aujourd'hui? Toute cette semaine, on mène l'enquête Ariette Taylor-Mill. Aujourd'hui, troisième épisode, l'affranchissement des femmes.
C'est probablement dans ces pages que la plupart de nos lecteurs découvriront qu'une protestation organisée est apparue aux États-Unis, dans la partie la plus civilisée et éclairée du pays, portant sur une nouvelle question. Nouvelle non pas pour les penseurs ou pour quiconque ressent et reconnaît les principes d'un gouvernement libre et populaire, mais nouvelle, et même tout à fait inconnue jusqu'ici, en tant qu'objet de réunions publiques et d'actions politiques concrètes. Cette question est celle de l'octroi du droit de vote aux femmes, leur admission, en droit et en fait, à la complète égalité avec les citoyens de sexe masculin de la population en matière de droits politiques, civiques et sociaux. Beaucoup de lecteurs seront d'autant plus surpris lorsqu'ils comprendront que cette agitation naissante n'est pas un plaidoyer d'auteurs et d'orateurs masculins en faveur des femmes, les soi-disant bénéficiaires affichant soit de l'indifférence, soit une hostilité apparente. Il s'agit d'un mouvement politique ayant des buts réels et dont la mise en œuvre dénote une intention de persévérer. Et c'est un mouvement non seulement pour les femmes, mais par les femmes.
Bonjour Aurélie Knuffer.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paul Valéry à Montpellier. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous travaillez en histoire féministe de la philosophie. Vous préparez un colloque prévu en 2025 sur Ariette Taylor à l'université Paul Valéry. On a déjà parlé ensemble hier de Ariette Taylor et de John Stuart Mill, de leur contexte libéral, du féminisme libéral qu'ils ont proposé. Aujourd'hui, on va parler plus clairement de deux textes qu'ils ont écrits. Alors, le premier date de 1851. Il est signé d'Ariette Taylor elle-même. Il s'appelle « L'affranchissement des femmes » et on vient d'en entendre un extrait lu par Anaïs Hisbert. Et le second, 18 ans plus tard, lui est signé par John Stuart Mill et il s'appelle « L'assujettissement des femmes ». En quoi, d'abord commençons par Ariette Taylor, qu'il a écrit quand même avant, en quoi ce texte d'Ariette Taylor est-il radical pour son époque?
Alors, si simplement je peux me permettre une petite remarque avant de commencer. Donc, en effet, ce texte a été écrit en 1851. Il est paru dans la Westminster Review, une revue donc de philosophes radicaux, libéraux, pour le dire vite. Mais il est d'abord paru sans le nom d'Ariette Taylor. C'est seulement en 1859, quand Mill publiera une anthologie de ses textes, qu'il révélera au grand public ce que, en réalité, le public savait déjà, où il y avait des rumeurs qui circulaient sur le fait que Ariette Taylor était l'autrice de ce texte. Alors, ce texte a été relu à partir des années 70-80 par des théoriciennes féministes en le comparant à l'asservissement des femmes de John Stuart Mill. Et elles ont bien mis en évidence une série de différences et le fait que ce texte, en effet, pourrait être lu, et je pense que c'est le cas, comme étant radical et plus radical que l'asservissement des femmes.
En quoi il est plus radical, justement ?
Alors, tout d'abord, je partirai du texte qui vient d'être lu, qui est l'ouverture de cet article, hein, puisque d'abord c'est un article, qui rend compte d'une réunion, d'une convention qui s'est tenue aux États-Unis, dans le Massachusetts, une convention pour le droit des femmes, qui avait fait l'objet d'un article dans le New York Tribune, et Ariette Taylor Mill, en fait, se saisit de cet événement, et va en produire une analyse, une interprétation, pour y voir à la fois le symptôme, le signe, et l'invitation à une transformation politique radicale, une transformation politique historique. Donc elle lit cet événement comme le signe d'un, d'un départ dans le mouvement féministe, d'un nouveau départ dans et pour le mouvement féministe. En cela, elle se fait un peu à la manière de Tocqueville, hein, un peu l'historienne du temps présent. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour également pour John Stuart Mill, c'est-à-dire cette capacité à capter ce qui, dans le moment présent, fait figure d'événement, hein, à une valeur et l'indicateur de transformation profonde à venir. Et donc là, c'est ce qu'elle fait à partir de cette convention. Elle montre que cette convention constitue un événement historique à part entière, dans la mesure où ce qui était jusqu'alors une question purement théorique passe sur le plan de l'action concrète et de l'action collective. Et d'autre part, ce qui constitue une grande transformation, c'est le fait que ce qui était jusqu'alors mené par les hommes, et ce qui jusqu'alors était une théorie en faveur des femmes, les femmes étant l'objet du discours, les femmes deviennent pour la première fois les sujets d'un discours sur le droit des femmes. Elle le dit, c'est un mouvement non seulement pour les femmes, mais par les femmes. Donc, pour revenir à votre question, en quoi ce texte est plus radical? Alors, il faudra aller après dans le détail de la comparaison avec le texte de John Stuart Mill. Mais ce qui rend ce texte plus radical, c'est d'abord le rôle qu'elle attribue à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'agentivité des femmes. C'est-à-dire, comme je le disais à l'instant, le fait que les femmes soient sujets, les sujets, c'est-à-dire l'origine de transformation politique. Alors que dans l'asservissement des femmes, c'est un texte écrit par un homme, bien sûr, en faveur du droit des femmes, mais dans lequel, précisément, cette question de la manière dont les femmes se saisissent par elles-mêmes des propres moyens de leur libération n'est plus vraiment posée, alors qu'elle est au cœur de la problématisation d'Harriet Tyler Mill.
Est-ce que finalement, on peut dire aussi, Aurélie Knuffer, que Harriet Taylor va plus loin que Mill, parce que Mill, en bon libéral qu'il est et qui fait découler son féminisme de son libéralisme, va vraiment étayer sa pensée sur le droit, c'est-à-dire que l'égalité des sexes, l'égalité d'accès à l'emploi, à l'éducation, doit être en fait défendue par le droit, permis par des lois, alors que Harriet Taylor, elle, va se dire aussi que le droit n'est pas suffisant. Et finalement, c'est aussi une critique qu'on va retrouver dans les vagues suivantes du féminisme. Là, on en est à la première vague du féminisme qui mise tout effectivement sur le droit, sur le vote des femmes et sur les lois. Est-ce que déjà Harriet Taylor avait pressenti le fait que le droit ne serait pas suffisant et qu'il y aurait quelque chose à travailler du côté des mentalités, du côté des usages et peut-être des manières de penser?
Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler ce point. Cela dit, John Stuart Mill ne pensait pas non plus que de simples réformes légales seraient suffisantes pour assurer la transformation des rapports entre les hommes et les femmes, et toute transformation politique d'ailleurs. Donc je pense que, en effet, c'est une spécificité de leur féminisme, parce qu'il y a quand même du commun, et beaucoup de commun, hein. Mais ce n'est peut-être pas là, à mon sens, que se loge la différence, ou la différence fondamentale. Il me semble que cette différence, elle se loge dans ce que je viens un tout petit peu d'esquisser, à savoir dans le statut que l'une et l'autre donnent à, encore une fois pour le dire avec un terme anachronique, hein, l'agentivité des femmes. Elle se loge également dans, on y reviendra sans doute plus tard, dans la question de la nature des femmes. C'est une question assez complexe. Et aussi sur la question de leur éducation. Peut-être je m'arrête là.
Non, mais vous pouvez peut-être justement nous en dire plus sur maintenant aborder la question de cette la question de la nature des femmes. Est-ce que quelle est leur interrogation sur cette nature des femmes?
Ce qui fait la singularité de l'affranchissement des femmes, donc le texte de Harriet Taylor, c'est le fait précisément qu'elle refuse de se situer sur ce terrain. Elle affirme qu'au fond il s'agit là où elle suggère qu'il s'agit là d'un faux problème. Alors, à l'époque d'Harriet Taylor et de John Stuart Mill, comme c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui, hein, de nombreuses croyances ou opinions sur la prétendue différence des sexes prévalent dans l'opinion publique. L'idée que les femmes auraient une intelligence d'une nature différente, auraient des capacités différentes, qu'elles seraient plus enclines à et meilleures dans tel ou tel type d'activité. En général, ces activités ont trait à tout ce qui relève de l'espace domestique, du foyer, de la maternité, de l'éducation des enfants. Parfois, cette différence se comprend aussi en termes, en réalité toujours, se comprend en termes hiérarchiques. Un sexe ayant prétendument de plus grandes capacités intellectuelles, morales, physiques que l'autre. Donc, c'est là le lieu commun le plus répandu en leur temps. Et le lieu commun qui est également répandu et contre lequel Harriet Taylor, comme Mill plus tard, vont écrire, c'est l'idée selon laquelle, du fait de leur nature, les femmes se satisfont pleinement de la condition qui leur est faite et consentent à vivre dans cet espace privé, dans cet espace domestique, avec moins de droits. Et la preuve, c'est qu'elles ne se révoltent pas. Ah. Donc, Harriet Taylor aurait pu écrire son article en essayant de montrer, c'est un peu ce que va faire Mill, que telle n'est pas la nature des femmes, que on ne peut pas la connaître, que mais en réalité elle refuse de rentrer dans le débat. Elle écrit, si je peux me permettre de la citer.
Oui, oui.
Que les orateurs de la Convention américaine, donc celle qu'elle examine dans ce texte, ont bien fait lorsqu'ils ont sagement refusé de se prononcer sur la question des aptitudes spécifiques propres à chacun des deux sexes, ou de se demander dans quelle mesure telle ou telle occupation serait mieux adaptée aux hommes ou bien aux femmes. Ils ont raison de soutenir que la seule réponse satisfaisante à cette question est la liberté absolue. Donc, Harriet Taylor refuse de poser la question de la différence naturelle, de la prétendue différence naturelle des sexes, et elle affirme quelques lignes plus bas. Nous suivrons donc l'exemple de la Convention en nous abstenant de soulever la question des prétendues différences physiques et mentales entre les deux sexes, non pas parce que nous n'avons rien à en dire, mais au contraire parce qu'il faudrait consacrer à cet aspect toute la place dont nous disposons pour traiter de l'ensemble du sujet.
Donc ça veut dire qu'elle, c'est pas tant qu'elle refuse ce débat-là, c'est juste qu'elle pense qu'il faudrait accomplir un véritable travail sur le sujet, une véritable recherche scientifique sur le sujet.
Alors, c'est toute la question qu'on peut poser. Est-ce que lorsqu'elle affirme qu'elle n'a pas l'espace nécessaire pour traiter sérieusement de cette question, est-ce que c'est vraiment parce qu'elle estime que cette enquête
est nécessaire,
féconde, ou est-ce que c'est une simple manière d'écarter le sujet, de le remettre à plus tard? Là, on peut bien entendu discuter. Or, il se trouve que, voilà, précisément, c'est la voie que John Stuart Mill va davantage emprunter dans l'asservissement des femmes, puisqu'il va consacrer de longues pages à montrer que les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas connaître la nature des femmes, étant donné que nous ne les connaissons que dans un contexte de domination, d'une part, et nous ne pouvons pas connaître la nature des femmes, d'autre part, parce que nous ne disposons pas des moyens scientifiques pour départager ce qui, chez les femmes, relève de la nature ou de l'éducation. Puisque, bon, là j'entre un petit peu dans le détail, mais John Stuart Mill est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Le système de logique », dans lequel il a cherché à fonder une science morale, sur le modèle des sciences physiques, une science morale, une science de la société, qui aurait permis, selon lui, de déterminer et de comprendre la manière dont se forment les caractères individuels. C'est ce qu'il appelle l'éthologie, la science du caractère. Mmh. Et il dit très bien que cette science n'est pas encore assez mûre et que du coup, voilà, nous n'avons pas les moyens épistémologiques à notre disposition pour appréhender ce qu'est ou ce que serait éventuellement la nature des femmes, si nature des femmes il y a. Donc, le texte de John Stuart Mill, L'asservissement des femmes, contient des contradictions ou une tension parce que d'un côté, John Stuart Mill fait la démonstration du fait que nous ne pouvons pas connaître la nature des femmes en l'état, mais de l'autre, son ouvrage comporte des passages qui sont ambigus, voire plus qu'ambigus, dans lesquels il attribue des capacités intellectuelles spécifiques aux femmes, à savoir l'intuition de manière assez classique, cette division du travail intellectuel, on pourrait dire, et cette façon de décrire l'intelligence spécifique des femmes comme étant une forme d'intuition, de capacité à saisir les choses en un instant, à se projeter dans l'avenir. Donc, d'une part, il attribue l'intuition aux femmes, et de l'autre, dans un passage là aussi assez controversée à la fin du chapitre 3. Il montre que si les conditions étaient réunies pour que le mariage devienne un contrat entre égaux, les femmes auraient plus tendance à se tourner vers la maternité. En tout cas, elles préféreraient rester dans l'espace du foyer pour élever les enfants.
Ce qui est étonnant, parce qu'il se contredit lui-même, vous l'avez dit, puisque d'un côté, on ne peut pas témoigner de la différence de la nature des sexes, mais en même temps, on peut quand même se dire qu'à égalité, les femmes se tourneraient naturellement plutôt vers la maternité et le foyer, et les hommes plutôt vers l'espace public, et on imagine d'autres positions sociales, en tout cas publiques.
Voilà, ce sont des tensions, des contradictions qui sont présentes en effet dans le texte de...
Et vous l'expliquez comment ces tensions? Parce que si on revient au texte d'Harriet Taylor, l'affranchissement des femmes, j'ai relevé quelques passages où bien au contraire, elle va défendre quand même, sans même... Elle-même dit qu'elle ne veut pas rentrer sur ce terrain de la nature, de la différence des sexes, mais elle dit quand même à certains moments, je peux la citer, « Les femmes ont montré qu'elles étaient aptes aux plus hautes fonctions sociales, même si elles ont eu rarement accès. En effet, par une bien curieuse anomalie, les femmes ne peuvent exercer de fonctions officielles, même mineures, mais peuvent régner dans certains pays. » Et là, elle cite les figures d'Élisabeth, Isabelle de Castille, Marie-Thérèse, Catherine de Russie, Blanche, la mère du roi français Louis IX, etc. etc. Et puis dans d'autres pages plus tard, elle va parler de l'égoïsme des femmes en disant qu'il est similaire à l'égoïsme des hommes, qu'elles ne sont pas plus tournées vers l'autre. On est loin de la philosophie du Caire hein, avec Harriet Taylor. Donc finalement, elle s'aventure elle aussi sur ce terrain-là de la nature féminine, mais pour dire qu'en fait, elle est exactement similaire à celle des hommes.
Oui, alors pour la question de savoir... Pourquoi, comment se fait-il qu'on trouve de telles contradictions chez John Stuart Mill? Je me permets aussi d'ajouter que ces tensions, on les retrouve d'une certaine manière dans l'autobiographie, mais dans d'autres textes. Dans l'autobiographie, à plusieurs reprises, lorsqu'il évoque Harriet Taylor Mill, alors il l'évoque toujours de manière élogieuse, mais en même temps, dans la façon dont il décrit leur collaboration intellectuelle, on peut voir rejaillir une forme d'impensée qu'on pourrait dire sexiste, hein, c'est-à-dire que Harriet Taylor est celle qui donne la matière empirique, on pourrait dire, qui a l'intuition, les grandes idées, mais pour tout ce qui relève de l'abstraction et du scientifique, hein, c'est lui qui est l'auteur. Donc, bon, on peut imaginer que cette façon cette façon de présenter les choses n'est sans doute pas tout à fait fidèle à la réalité et symptomatique du fait que John Stuart Mill, comme du reste beaucoup d'hommes philosophes, de femmes philosophes, porte malgré lui des préjugés. Je pense que un des enjeux de ce qu'on appelle l'histoire féministe de la philosophie, quand on relit ces textes, c'est de prendre au sérieux en fait ces contradictions, de les lire, de les examiner et de voir comment elles travaillent les textes. Et c'est du reste aussi le travail qu'il faut accomplir à l'endroit d'Harriet Taylor Mill, parce que aussi radical son texte soit-il, hein, il comporte lui aussi des zones d'ombre, des parts un peu obscures.
Alors à quel endroit justement, parce que ce que j'ai cité sur l'égoïsme des femmes qui serait similaire à celui des hommes, sur le fait qu'elles puissent accéder à des postes élevés, finalement on révèle plutôt une manière de défendre cette égalité. Quelles sont ces zones d'ombre alors?
Oui, alors tout à fait, pardonnez-moi, je ne suis pas revenue sur les textes que vous avez évoqués. En effet, hein, elle défend l'idée selon laquelle les femmes devraient pouvoir avoir accès à toutes les professions, qu'elles en ont les capacités, comme les hommes. Bon, c'est d'ailleurs ce que défend aussi John Stuart Mill hein, dans l'asservissement des femmes. Et lui aussi reconnaît qu'il y a eu des femmes souveraines, avec de grandes capacités politiques, des intellectuels de renom. Mais il n'en tire pas exactement les mêmes conséquences qu'Harriet Taylor Mill. Hein, dans le texte, dans le premier chapitre de la liberté, il montre bien que non seulement il y a eu déjà des femmes intellectuelles, mais que les femmes commencent à se révolter contre la condition qui leur est faite, à produire des textes critiques, à se réunir. Mais selon lui, à l'inverse d'Harriet Taylor, c'est ces phénomènes ne constituent pas un événement historique à part entière qui serait le signe d'une transformation radicale en cours des rapports de domination. Alors pour répondre à l'autre question que vous me posiez, y a-t-il des parts d'ombre chez Harriet Tyler ? Alors c'est ce qu'a montré par exemple la philosophe et commentatrice des travaux d'Harriet Tyler, Penelope Deutscher, dans un article récent. Elle a bien montré, elle n'est pas la seule à l'avoir fait, on trouve dans ces textes-là des mentions des peuples sauvages, barbares, et d'autre part des classes ouvrières, laborieuses, des pauvres, comme si la violence et les rapports de domination étaient toujours plus élevés au milieu des classes populaires et chez les peuples dits sauvages. Et on retrouve, voilà, chez Harriet Tyler, ce qui du reste apparaît également chez Mill, l'idée selon laquelle l'égalité entre les hommes et les femmes est le propre des sociétés les plus avancées, les plus dites civilisées. C'est ce qui apparaît d'ailleurs dans le texte qui a été lu pour commencer de l'asservissement des femmes, puisque Harriet Tyler souligne que la convention pour les droits des femmes qu'elle commente, dont elle évoque l'importance historique, s'est tenue, je la cite, dans la partie la plus civilisée et éclairée du pays. Donc il y a la construction, comme le dit Penelope Deutscher, d'un autre du féminisme, l'ignorant, le pauvre, le sauvage, qui transparaît dans les textes d'Harriet Tyler Mill.
Aurélie Knuffer, on va écouter un extrait de l'asservissement des femmes de John Stuart Mill que l'on compare depuis tout à l'heure avec le texte d'Harriet Tyler, L'affranchissement des femmes.
L'ensemble des causes sociales et naturelles rendent improbable la rébellion collective des femmes contre le pouvoir des hommes. Elles sont dans une position différente des autres classes soumises, dans la mesure où leur maître n'exige pas seulement d'elles qu'elles les servent. Les hommes ne veulent pas seulement l'obéissance des femmes, ils veulent leurs sentiments. Tous les hommes, à l'exception des plus brutaux, désirent avoir dans la femme qui est l'être le plus proche d'eux, non pas une esclave soumise par la force, mais une esclave consentante. Non pas simplement une esclave, mais une favorite. Ils ont donc tout fait pour asservir leurs esprits. Dans tous les autres cas, l'obéissance des esclaves est basée sur la peur, soit la peur qu'inspirent les maîtres, soit une peur liée à la religion. Les maîtres des femmes ont voulu plus que la simple obéissance et ont usé de toute la force de l'éducation à cette fin. Dès leur tout jeune âge, les femmes sont élevées dans la conviction que le caractère idéal d'une femme est exactement l'opposé de celui de l'homme. Au lieu d'encourager la volonté, l'autonomie et la maîtrise de soi, on leur apprend la soumission et l'assujettissement à autrui.
Si j'étais un personnage de roman, ce serait tellement facile. J'abandonnerais tous mes rêves sans regret. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Ça m'a toujours suffi d'avoir ma famille. Je me suis peut-être précipitée quand je l'ai repoussée.
Est-ce que tu l'aimes ?
Ce qui compte, c'est que je sois aimée. Je veux être aimée.
Oui, mais aimer, c'est autre chose.
Je sais. Vous voyez, j'ai la conviction. J'ai la conviction sincère. Que les femmes, elles... Les femmes ont une âme, elles ont un cerveau. En plus d'avoir un cœur, elles ont de l'ambition et elles ont du talent, en plus de leur beauté. Et moi, j'en ai assez qu'on puisse prétendre que la seule raison d'être d'une femme, c'est l'amour. J'en ai par-dessus la tête. Mais je me sens tellement seule.
Les femmes ont une âme, c'est dit dans cet extrait, dans l'adaptation des quatre filles du Dr. March. Et juste avant, on a entendu un extrait du texte de John Stuart Mill de 1869, L'asservissement des femmes, où Mill développe cette idée extrêmement intéressante de l'esclave consentante, de cette figure de la femme, de l'épouse comme esclave consentante, de ce travail en fait sur leurs sentiments. Est-ce que ça aussi c'est une chose qui différencie le travail d'Harriet Taylor de celui de John Stuart Mill? C'est-à-dire que lui est allé moins loin, a été moins radical qu'elle sur certaines choses, mais en même temps a travaillé cette part de domination des femmes du côté de leurs sentiments, du côté de leur âme.
Alors, en réalité, là encore, c'est quelque chose qu'on trouve déjà hein, dans l'affranchissement des femmes, cette manière de décrire au plus près la spécificité de cet assujettissement des femmes aux hommes, la singularité de cette relation qui, on pourrait dire de cette relation d'aliénation, qui fait que les femmes doivent désirer être aimées et développent. Sont éduquées pour acquérir des caractéristiques qui plaisent aux hommes et qui ne sont autres que la soumission, le sacrifice de soi, l'abnégation, etc. Donc ça, c'est quelque chose, en réalité, qu'on trouve chez Harriet Taylor comme chez John Stuart Mill. Le texte que vous avez donné est très intéressant parce qu'on voit au fond que ce qui distingue l'un et l'autre apparaît dès la première phrase du texte. Hein, lorsque John Stuart Mill écrit « L'ensemble des causes sociales et naturelles rendent improbable la rébellion collective des femmes contre le pouvoir des hommes. » Cette phrase est importante parce que précisément ce qu'avait montré Harriet Taylor, c'est que cette rébellion, non seulement elle est probable, mais elle est active, elle est en cours. Alors John Stuart Mill, encore une fois, tout en reconnaissant l'existence de mouvements dits féministes, hein, puisque le terme n'est pas employé, considère malgré tout que du fait de cette spécificité de la relation d'asservissement des femmes aux hommes, qui est un asservissement intime, et bien du fait de cette spécificité, tous ces mouvements de rébellion, de révolte, de protestation, en fait, ne peuvent que de manière très peu certaine donner lieu à de véritables transformations. C'est-à-dire que, et du coup, peut-être, ce qu'il suggère, c'est qu'il faut aussi l'aide des hommes et des hommes philosophes hein, pour accomplir ces transformations nécessaires. Alors, ce qui est très intéressant, voilà, dans ce texte, cela dit, c'est précisément cette description extrêmement fine que Mill va poursuivre dans les pages qui suivent, hein, de la manière dont les femmes sont éduquées pour plaire, comme je le disais à l'instant, en développant leur faiblesse, en développant leur timidité, et la manière dont cette éducation négative les rend soumises, les rend esclaves. Hein, comment voilà, c'est l'école de l'esclavage, pour reprendre un terme, une expression propre à John Stuart Mill.
Merci beaucoup à vous, Aurélie Knuffer. De vous, on peut lire La philosophie de John Stuart Mill, Repères aux éditions Vrin, Intervention et libération d'Edmund Burke à John Stuart Mill aux éditions Classique Garnier. En 2025 aura lieu un colloque prévu donc sur Harriet Taylor à l'université Paul Valéry que vous préparez avec Ludmilla Lorrain qui sera notre invitée de demain. Et bien sûr, il faut lire John Stuart Mill et Harriet Taylor, écrit sur l'égalité des sexes, texte traduit et présenté par Françoise Orazi aux éditions ENS. Encore merci à vous, Aurélie Knuffer.
Merci beaucoup.
Merci à Anaïs Isbert pour la préparation de l'émission, à Nicolas Berger pour la réalisation et à Audrey Guélil pour la prise de son. Rendez-vous demain pour la suite de cette série sur Harriet Taylor Mill. Et d'ici là, rendez-vous sur le site de France Culture à la page de l'émission pour la réécouter.